Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Heureusement que vous êtes là.
Merci Pascal, bonjour, bonjour à tous. Et à la veille de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, le ton se durcit entre la majorité et les opposants. Le report de l'âge légal à 64 ans, ce n'est plus négociable, a prévenu dès hier la Première Ministre. C'est pourtant l'un des principaux points de crispation pour ceux qui manifesteront demain dans tout le pays. Les renseignements estiment que cette fois encore, 1 million de personnes, voire plus, iront défiler et la France sera en partie paralysée. On y revient évidemment longuement dans ce RTL Midi, c'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous faire grève demain? Dans cette édition également, la stupeur dans le diocèse d'Orléans où le curé rend son aube pour vivre une histoire d'amour. Les suites de l'audit à la Fédération française de football. Et puis on parlera de la pénurie d'infirmiers et infirmières. 60 000 postes vacants dans le pays, alors que dans le même temps, 180 000 diplômés en capacité de travailler ont décidé d'abandonner la profession. Enquête RTL à suivre.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, direction Bordeaux, où l'on vient de découvrir une nécropole du haut Moyen-Âge en plein centre-ville. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Se déplacer un jour de grève ou comment les Français s'adaptent, on vous dira tout. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT Midi, avec la romancière Agnès Lédigue aujourd'hui.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. J'ajoute que la maman de Lucas, ce jeune collégien de 13 ans qui s'est suicidé début janvier dans les Vosges, va tenir une conférence de presse à 13h précisément. Donc nous interrogerons sur ces mineurs également qui seront jugés, 4 mineurs de 13 ans.
Avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Ça sera une France coupée en deux avec beaucoup de nuages et un petit peu de pluie au nord, davantage de soleil au sud et des températures qui se radoucissent.
Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
La réforme des retraites est arrivée à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales pour l'instant et pour 3 jours, avec plus de 5000 amendements à examiner pour les quelques 70 députés présents. La bataille parlementaire a commencé, Olivier Bost.
Oui, en fait, c'est le premier round, plutôt un round d'observation pour dire les choses, qui va nous éclairer sur la suite. Ce qu'il va falloir regarder toute cette semaine, c'est le comportement des députés. Alors d'abord, du côté de la France insoumise, vont-ils paralyser les débats, faire ce que l'on appelle de l'obstruction? Il faudra aussi regarder ce que proposent et ce que votent les députés, les Républicains. Il faudra regarder ça à la loupe, parce qu'avec quelques députés de la majorité d'Emmanuel Macron, ils ne sont plus aussi fiables que l'espérait le gouvernement. Leurs votes sont devenus incertains. Et s'ils sont trop fragiles, si ce vote est trop périlleux, eh bien à la fin, dans l'hémicycle, Elisabeth Borne serait obligée d'avoir recours au fameux 49-3, une adoption sans vote. L'occasion alors pour les oppositions de crier au passage en force. Le gouvernement s'en passerait bien. Nous n'y sommes pas encore.
Et à l'Assemblée comme à l'Élysée, on scrutera évidemment la mobilisation demain contre cette réforme.
Oui, les services de renseignement attendent 1 million à 1 200 000 manifestants dans les rues, peu ou prou comme le 19 janvier dernier. 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans le pays. Et les perturbations, elles, s'annoncent massives, notamment dans les transports. Très peu de trains à la SNCF à partir de 19h, 2 TER sur 10 en circulation, 1 TGV sur 3. En Ile-de-France, comptez 1 RER sur 10 sur les lignes C, D et E, 1 sur 3 pour les RER A et B, ce sera très compliqué dans le métro. Dans les airs, Air France annule 1 vol sur 10, sauf pour les longs courriers. Et puis attention aussi si vous avez des enfants scolarisés, classe fermée, pas de cantine, pas de garderie parfois. Les profs étaient déjà très nombreux à faire grève le 19 janvier. 42% dans le primaire, 34% dans le secondaire. Même les syndicats dans l'enseignement catholique appellent à cesser le travail et c'est assez rare.
Stupeur dans le diocèse d'Orléans où les fidèles ont appris ce week-end le départ de leur curé.
Oui, dans une lettre, le recteur de la cathédrale annonce qu'il quitte son ministère, Christian Panvert, pour vivre une autre histoire d'amour.
Oui, le curé a fait le choix d'abandonner son ministère pour l'amour d'une femme. Ordonné à 29 ans, en 99, le père Christophe Chatillon a adressé un courrier aux prêtres et responsables diocésains, ainsi qu'aux paroissiens. Il écrit notamment « Pendant très longtemps, les joies de la mission et de la vie fraternelle m'ont permis de compenser les frustrations liées plus particulièrement au célibat. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort auprès d'une amie qui m'a écouté et soutenu. Je ne peux pas envisager l'avenir sans elle. » Cette nouvelle est un choc pour beaucoup d'entre nous, répond dans un communiqué l'évêque d'Orléans, Mgr Blacard. Il a annoncé que les célébrations seront désormais assurées en attendant son remplacement par les prêtres et diacres du centre-ville avec l'aide de ceux du pôle missionnaire. La plupart des paroissiens croisés dimanche à la messe parlaient d'un acte courageux, honnête, et respectable.
Christian Panvert pour RTL.
Le sport et la désillusion hier pour l'équipe de France de handball.
Les Bleus ont perdu la finale du mondial 34 à 29, surclassés par les Danois. Une déception notamment pour l'un des piliers de cette équipe de France, Nicolas Karabatic, bientôt 39 ans, et qui a peut-être laissé passer la dernière occasion de décrocher un nouveau titre avec les Bleus, Isabelle Langer.
Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on reverra encore Nicolas Karabatic avec un maillot bleu sur le dos ? Le doyen de l'équipe de France est resté évasif hier soir.
Je ne sais pas encore, j'ai pas de boule magique. Je vais là essayer de me reposer un peu, réparer mon pied et bien finir la saison avec mon club.
Lui qui n'avait jamais été blessé pendant toute sa carrière, il enchaîne les bobos depuis deux saisons, handicapé par un pied douloureux pendant ce mondial. Karabatic espère avant tout pouvoir continuer à jouer au hand.
Je ferai un bilan à la fin de saison sur mon état physique, sur ma capacité aussi à jouer en équipe de France, à être bon avec le maillot bleu parce qu'il y a, voilà, rien acquis.
Il a beau être le taulier des Bleus depuis 20 ans, Nicolas Karabatic est toujours aussi humble quand il s'agit de l'équipe de France.
Si jamais je dois aller aux Jeux Olympiques, c'est parce que j'aurais mérité ma place et que je serai bon sur le terrain et que je serai en forme. Et c'est la seule question à répondre.
Ce maillot bleu qu'il chérit tant et qu'il espère au fond de lui-même ne ranger qu'après une dernière danse aux JO de Paris dans 18 mois.
Isabelle Langer pour RTL. Un mot de football avec les premières conclusions aujourd'hui de l'audit mené à la Fédération Française de Foot. Un pré-rapport qui permettra aux premiers concernés, Noël Le Graët et Florence Ardouin, de savoir précisément ce qui leur est reproché et d'organiser leur défense. On y revient longuement dans le journal de 12h30. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi, une salle et deux ambiances plutôt.
C'est exactement ça. Avec une perturbation qui a tendance à faire du surplace sur la moitié nord du pays, elle va très peu bouger et puis une moitié sud, certes avec encore un petit peu de grisaille, tenace en direction du sud-ouest, mais davantage de soleil en Méditerranée, mais au prix du vent 80-90 km/h, voire 100 pour les caps les plus exposés. Et donc comme je le disais, plus au nord, eh bien, les nuages en seront de la partie, avec en prime localement encore quelques bruines, quelques plus faible et toujours un petit peu de neige qui pourrait blanchir les sols et bien des Vosges mais aussi de la Franche-Comté et de l'Alsace, avec des températures qui se radoucissent surtout en direction du littoral atlantique, de la Bretagne vers les Hauts-de-France, mais également près de la Méditerranée où il faudra compter entre 8 à 11 degrés. Partout ailleurs, et bien ça sera un tout petit peu plus frais, mais on gagne aussi quelques degrés par rapport à la veille, entre 5 à 8 degrés.
Merci beaucoup Claire Delorme.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et on va faire un voyage dans le temps, remonter plus de 1000 ans en arrière et aller à la recherche d'un cimetière.
En plein centre-ville de Bordeaux. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Oui, ne soyez pas condescendant, le voyage dans le temps, c'est pas le fait d'aller à Bordeaux, hein, Philippe.
Non, vous allez nous.
Non, mais je précise, je voudrais pas qu'on soit mal compris. On vous retrouve place des Martyrs, pour être précis, place des Martyrs de la Résistance, qui est devenue effectivement un cimetière à ciel ouvert depuis la découverte d'une nécropole du Haut Moyen-Âge.
Oui, le chantier de fouille est à seulement 50 cm de la chaussée. Je suis juste devant. La circulation n'est pas interrompue. Les archéologues, eux, sont allongés à même la terre. Pour les rejoindre, j'ai été autorisé à descendre dans la fosse. Alors, je dois vous le dire, petit malaise quand même de marcher dans cet espace qui contient encore des squelettes. Je vois des corps complets, tibias, crânes, vertèbres, contenus dans des sarcophages en pierre. Alors, j'avance bien sûr avec beaucoup de précautions. Et Violaine est anthropologue. Elle me raconte ce qu'elle est en train de faire sur ce chantier.
C'est un peu gênant, c'est sûr que c'est pas courant, mais ensuite, nous, notre rôle, c'est aussi de voir un peu justement les endroits où ils marchaient aussi, les vivants. Avec le plan de nos sarcophages, on arrive à voir un peu les espaces où justement il n'y en a pas, et les espaces où les gens, les vivants, se déplaçaient pour venir ensuite enterrer leurs morts et venir les commémorer, ce genre de choses. Là, je suis dans un sarcophage, et là, en fait, on a un squelette entre deux sarcophages. Il s'est mis entre les deux pour faire sa propre sépulture. Moi, je suis anthropologue, donc du coup, c'est le spécialiste des squelettes humains. Et en fait, on essaye, grâce à ces fiches, d'enregistrer le plus d'informations possible sur la position de chaque os, avoir une plus grande vision de tout le squelette et de tout ce qui s'est passé, en fait, depuis le moment où il a été enterré. Toutes ces personnes-là, on va essayer de voir un peu quelle population c'était, essayer de les connaître.
Ces squelettes ont plus de 1000 ans, je ne sais pas si on arrive précisément à les dater d'ailleurs, Philippe. Comment réagit-on dans le quartier ?
Oui, on va essayer de les dater, il va y avoir beaucoup d'analyses. Alors justement, pour répondre à votre question, les habitants s'arrêtent, ils sont assez intrigués de voir des ossements surgir du sol de la chaussée où ils passent en fait tous les jours, où ils marchent, où ils promènent leur chien. J'ai croisé Nicole qui pose quand même une bonne question sur ce qui va advenir de ces dépouilles.
Après tout, c'est des squelettes d'êtres humains. On les époussette avec des pinceaux, on les emmène pour des datations carbone 14. Et je voudrais savoir si après, on va les mettre à la chartreuse ou s'ils vont finir dans des boîtes à l'université.
Eh bien, ces squelettes vont donc être, je vous le disais, étudiés, scrutés pour déterminer s'ils étaient de la même famille, s'ils étaient malades, bien ou mal nourris, pour faire avancer la science, pour connaître mieux l'histoire de Bordeaux. Mais a priori, ils resteront sur les lieux d'études, en laboratoire, pour répondre à la question de Nicole. Pas de nouvelles inhumations pour ces squelettes. Et la fin du chantier est programmée pour la fin du mois de mai prochain.
Merci beaucoup Philippe de Maria en direct de Bordeaux donc pour RTL.
Dans un instant, hémorragie chez les infirmiers alors que 60 000 postes sont aujourd'hui vacants. 180 000 diplômés en capacité de travailler choisissent de ne plus exercer. 180 000. Nathan Bocard a enquêté.
RTL pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Je sais qu'à la fin, ce qui m'a donné envie de me reconvertir, c'est que j'en avais marre d'être entourée de la souffrance, de rentrer chez moi, d'être triste. Ça m'arrivait de pleurer parce que la nuit a été horrible. Et j'ai envie d'avoir plus de joie et de sérénité dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai changé.
Vous venez d'entendre Maëva, 34 ans, qui a donc choisi d'abandonner son travail d'infirmière, un phénomène loin d'être isolé. Et c'est le sujet de votre grande enquête RTL. Nathan Bocard, bonjour.
Bonjour.
Avec ces chiffres impressionnants que Pascal donnait juste avant la pause, 60 000 postes d'infirmiers vacants aujourd'hui en France, alors que 180 000, donc trois fois plus de diplômés en capacité de travailler, ont quitté la profession. D'abord, comment on explique une telle hémorragie, Nathan ?
En premier lieu, par le manque de moyens auxquels sont confrontés les infirmiers. C'est souvent l'argument numéro un quand on parle reconversion dans ce métier. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il y a une pénurie de soignants, donc ceux qui restent ont une surcharge de travail, donc certains abandonnent. Deuxième argument, souvent invoqué, les lié au premier, c'est la perte de sens. Les infirmiers n'arrivent plus à soigner correctement, or quand c'est un métier de vocation, eh bien ça décourage forcément de continuer. La question du salaire est aussi souvent invoquée, beaucoup considèrent qu'il est insuffisant au vu des conditions de travail. Pour vous donner une idée, le salaire moyen d'un infirmier à l'hôpital, c'est en début de carrière 1800 euros environ, mais ça c'est depuis peu et on va y revenir. À cela s'ajoute la pression psychologique, vous l'avez entendu dans les mots de Maëva, le fait de côtoyer la mort, la souffrance, tout ça participe à mener certains infirmiers au burn-out. Voilà, reconversion.
Et cette fuite, elle s'est accélérée avec le Covid.
Oui, ça s'observe très clairement à l'hôpital. En 2020, première année de la crise sanitaire, il manquait environ 7000 infirmiers dans les hôpitaux français. L'année suivante, 2021, ce chiffre grimpe à 34 000, presque 4 fois plus. Et puis enfin, en 2022, vous l'évoquiez, 60 000 postes d'infirmiers vacants à l'hôpital. Rien qu'à la PHP, les hôpitaux de Paris, qui est un mastodonte du système hospitalier, il manque 1400 infirmiers aujourd'hui.
Nathan, est-ce qu'on sait si ce sont principalement les infirmiers en fin de carrière qui sont touchés par ce phénomène ou si les jeunes sont concernés aussi ?
Les jeunes le sont même très largement puisque tous ces problèmes découragent un peu les nouveaux arrivants. Selon le syndicat national des infirmiers, un tiers des diplômés quittent le métier moins de 5 ans après l'avoir commencé.
Autre chiffre assez frappant, c'est le nombre d'infirmiers qui sont inscrits à Pôle emploi, 16 000 au total.
Oui, et c'est un chiffre qui a tendance à baisser à moyen terme. Il y a deux ans, c'était 20 000 inscriptions à Pôle emploi. En revanche, si l'on regarde plus loin, 10 ans en arrière par exemple, il n'y avait entre guillemets que 7 000 infirmiers dans cette situation. Alors c'est difficile de l'analyser précisément, puisque d'une part il varie avec les différentes réformes et les évolutions dans la manière de compter les chômeurs, puis d'autre part ça relève de situations personnelles très variées. Mais selon le syndicat des infirmiers, la majorité de ces inscriptions à Pôle emploi s'explique par la mobilité des infirmiers qui déménagent, qui changent de région et qui donc cherchent temporairement un nouveau poste.
Bon, Nathan, comment on peut essayer de les faire revenir, ces infirmiers qui ont décidé de quitter la profession ? Il y a déjà des choses mises en place pour ça ?
Oui, au niveau national, déjà, le Ségur de la Santé, l'année dernière, a permis d'augmenter le salaire des infirmiers, 180 euros de plus par mois. Autre aspect évoqué d'ailleurs par Emmanuel Macron dans ses vœux au personnel de santé, le logement. Dans certains cas, les infirmiers ont du mal à se loger près de leur travail, surtout dans les zones où les loyers coûtent cher. Le président a donc proposé un parc de logements dédié uniquement au personnel hospitalier. Et puis certaines choses sont faites au niveau local. On parlait des hôpitaux de Paris qui est très touché par cette hémorragie. Eh bien, le mois dernier, la direction de la PHP a annoncé des mesures d'attractivité, principalement pour améliorer les conditions de travail. Un exemple, par exemple, permettre aux infirmiers de choisir l'organisation de leurs horaires, pour ceux notamment qui préfèrent concentrer beaucoup d'horaires sur une journée pour ne pas avoir à venir tous les jours à l'hôpital.
Merci beaucoup Nathan Bocard. Vous parliez des vœux d'Emmanuel Macron au monde de la santé. Le ministre de la Santé François Braun formulera les siens dans quelques minutes à partir de 12h30 en visio. C'est un peu plus original et il faut se dépêcher puisqu'on est déjà le 30 janvier. Les vœux, c'est jusqu'à demain au plus tard.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, et votre vie demain, ce sera la galère. Comment se déplacer un jour de grève ? Nous en parlons dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi,
votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va parler de demain, puisque demain, c'est la deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites et des perturbations massives d'ores et déjà annoncées dans les transports. Pour en parler avec nous, Arnaud Aimé, spécialiste mobilité urbaine au cabinet SIA Partners. À quoi il faut s'attendre demain ? On a déjà eu un premier test avec la journée du 19 janvier, des perturbations déjà massives. Est-ce qu'on sait comment les Français s'organisent dans ces cas-là ? Comment ils se déplacent quand ils n'ont pas d'autre choix ?
Bonjour. Oui, effectivement, on commence à avoir, hélas, pas mal de retours d'expérience de ces événements-là. Ce qui s'est passé le 19 janvier et qui devrait se reproduire demain, c'est quoi ? C'est une grève ponctuelle dans les transports. C'est très différent de ce qu'on a observé fin 2019 au moment de la précédente volonté de réforme des retraites, où c'était une grève reconductible et où les gens étaient empêchés d'aller à leur travail pendant des jours et des semaines. Quand c'est une grève plus ponctuelle, quand c'est sur un jour, en fait, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que les gens s'organisent davantage, sont prêts à sacrifier, entre guillemets, un jour de travail sur place pour faire soit du télétravail s'ils peuvent, ce qui n'est pas le cas de tous les Français évidemment, soit pour prendre un jour de congé dans cette période-là. Surtout qu'en même temps, il peut y avoir aussi des grèves dans l'éducation nationale, donc les gens sont aussi parfois juste bloqués chez eux. Et puis il y a des nouvelles pratiques professionnelles qui se sont mises en place, en tout cas dans les métropoles depuis la période Covid. Je pense notamment aux sites de coworking qui sont mis en place, qui font que les gens, s'ils veulent travailler dans un environnement calme, sans aller jusqu'au travail, peuvent aller dans des coworking à pied par exemple.
Pour parler de Paris, qui est un indicateur comme un autre, le périph demain sera à moitié plein par rapport à ce qu'il est ces jours-ci. Et les gens ne viennent pas à Paris.
Il sera à moitié plein et donc à moitié vide, effectivement.
Oui, à moitié plein ou à moitié vide, oui.
Puisqu'il faut voir le verre à moitié plein pour le coup. C'est-à-dire que les gens écoutent beaucoup les annonces, puisque en l'occurrence, c'est des grèves qui sont prévues depuis des jours, des semaines. Les pouvoirs publics insistent sur le fait que les transports publics risquent d'être saturés et les routes également. Donc les gens anticipent, ils se déplacent moins. Ce qu'on a vu le 19 janvier, c'est que non seulement on était très loin de la pagaille qu'on observait sur les routes par rapport à 2019, au moment des grandes grèves contre la réforme des retraites, mais aussi c'est, la situation était meilleure qu'à la normale. Cela dit, il faut faire attention, parce que plus ça se répète, plus les jours de grève se répètent,
les gens peuvent prendre des jours de congé.
Voilà. Et plus cet effet-là s'effrite.
À propos des gens qui doivent se déplacer malgré tout, on le disait, moins de voitures, il y a aussi moins de transports en commun. Sur quoi on se rabat dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est déjà notable?
Alors déjà, on cherche à comprendre quels sont les transports en commun qui seront très perturbés versus ceux qui seront peu perturbés. Typiquement, en Ile-de-France, il y a une grande disparité, en fait, dans le trafic demain, entre les réseaux ferrés, c'est-à-dire le métro, le RER, les trains de banlieue, où il y a des grosses perturbations, versus ce que la RATP appelle le réseau de surface, c'est-à-dire en clair les bus, où il y a beaucoup moins de perturbations. Les tramways, c'est également le cas. C'est une spécificité parisienne et francilienne qui tient notamment au fait qu'il y a eu pas mal de négociations sociales en 2022 à la RATP. On a parlé des pénuries de conducteurs, l'arrivée de Castex, etc., qui font qu'il y a moins de mécontentement par ailleurs chez les conducteurs de bus.
Pour rester sur Paris, on a aussi dans la capitale beaucoup de trottinettes, de scooters en libre-service qui permettent de se déplacer ces jours-là. Est-ce qu'on voit une augmentation de la consommation de ces objets? Merci. Finir ma question.
Ces mobilités douces ou modes alternatifs, comme on dit dans le jargon du transport, non seulement il y a une augmentation, mais il y a même une explosion de ces modes-là.
Donc c'est de quel registre?
De quel ordre? C'est entre 25 et 45%, c'est ce qu'on a observé le 19 janvier. Après, c'est quand même écrété, ça ne peut pas être multiplié de plusieurs centaines de pourcents parce qu'il n'y a pas non plus une capacité illimitée.
Un conseil pour ceux qui nous écoutent. Demain, comment on doit se balader? Comment on doit se déplacer? Moi, j'ai l'impression que c'est la voiture qui finalement... Il y a moins de voitures. Il y a moins d'embouteillages.
Il y a moins de voitures, mais il y a beaucoup de Parisiens qui n'ont pas de voiture. Donc le covoiturage, ça marche aussi. C'est de la voiture en utilisant la voiture du voisin et en venant avec lui. Les plateformes covoiturage aussi prospèrent dans ces périodes-là. Je pense à des Blablacar, par exemple. Donc ça, il faut l'utiliser. Je pense que c'est utile aussi de regarder sur les réseaux sociaux ou sur les applications des transporteurs quelle est la fréquentation réelle. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le trafic. Pour demain, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la fréquentation à bord des bus, des métros et des RER. Donc ce serait quand même dommage de ne pas profiter d'un transport en commun.
Oui, mais comme on le sait pas, ça plonge forcément celui qui a un rendez-vous dans de l'incertitude.
Oui.
Et la voiture peut être une solution, même s'il ne faudra pas être demain dans le 14e, dans le 7e, dans le 15e arrondissement, parce que la manifestation, elle sera dans ce secteur-là.
Ah, pour ce qui est de Paris, et puis il y a des manifestations dans quasiment toutes les grandes villes de France, où là aussi, on le rappelle, le covoiturage fonctionne.
Oui, le covoiturage fonctionne bien en Ile-de-France, dans les autres métropoles aussi. Comme je disais, il y a des plateformes numériques qui existent aujourd'hui pour mettre facilement en contact les gens qui ne se connaissent pas avant. C'est aussi l'occasion d'un partage des frais. Donc c'est une solution intéressante pour ces gens-là, effectivement.
Et là, ça se mesure? On voit une explosion des covoiturages ces journées de grève?
Alors, on observe une augmentation de plusieurs dizaines de pourcents sur les covoiturages qui sont bien tracés, c'est-à-dire ceux qui passent par les plateformes numériques. Parfois, elles font même des offres spéciales grèves. Il y en avait déjà eu aussi en 2019. Parfois même, ce n'est pas le cas particulièrement demain, mais parfois même, c'est les métropoles, les collectivités ou même régionales qui se mettent en partenariat avec les plateformes de covoiturage pour proposer des offres spéciales. On voit aussi ça aussi, par exemple, en été, dans des périodes de travaux sur l'infrastructure ferroviaire. Donc, c'est des solutions effectivement intéressantes.
Merci beaucoup, Arnaud Aimé. Je rappelle que vous êtes spécialiste mobilité urbaine au cabinet SIA Partners. Regardez, renseignez-vous et anticipez.
Jusqu'en dernière minute.
Voilà le triptyque pour se déplacer demain. Deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle, on le rappelle, contre la réforme des retraites.
La deuxième partie de ce 12-13 dans une seconde avec l'info qui revient dans quelques instants.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi,
le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
La grande édition de 12h30, Céline.
Et à la une, évidemment, cette deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Demain, alors que le texte précisément de cette réforme est arrivé à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales, 3 jours d'examen, un peu plus de 5000 amendements pour les quelques 70 députés présents. Et cette question, qu'est-ce qui peut encore être négocié? Ce ne sera pas l'âge de départ légal. Elisabeth Borne, la première ministre, ministre a prévenu dès hier. Alors, quelle marge de manœuvre pour la majorité et pour les opposants? Ce sera l'une des grandes questions de cette édition. On y reviendra longuement après le journal. Dans cette édition également, la maman de Lucas qui prendra la parole dans quelques minutes. Son fils s'est suicidé début janvier. 4 de ses camarades de collège sont renvoyés devant la justice accusés de l'avoir harcelé. Les suites de l'audit à la Fédération française de football. Noël Le Graët, le président mis en retrait, va savoir ce qui lui est reproché et va pouvoir préparer sa défense. Et puis un trésor national fait son entrée au musée d'Orsay, à un tableau de Caillebotte, figure de l'impressionnisme. La culture, c'est aussi LVT Midi, votre rendez-vous comme chaque jour juste avant 13h. Aujourd'hui, nous serons avec la romancière Agnès Ledigue, interrogée par Bernard Lehu. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos évidemment de cette réforme des retraites. Allez-vous faire grève demain ?
Et on en parlera à partir de 13h dans Les Auditeurs auront la parole, bien sûr, au 32-10. J'ajoute, la valeur travail est-elle méprisée aujourd'hui ? Il y a de quoi dire.
La météo, là aussi, il y a de quoi dire à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Claire Delorme.
Oui, de manière très synthétique, on va retrouver un temps tout gris et humide au nord, davantage sec et ensoleillé au sud, et des températures qui se radoucissent.
Merci Claire, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Elle sera contestée dans la rue demain, mais aujourd'hui, c'est à l'Assemblée qu'elle arrive, en commission des affaires sociales, pour être précis. Elle, c'est évidemment la réforme des retraites. Quelques 5000 amendements, un peu plus même, à examiner pendant 3 jours pour les députés présents dans cette commission. Et vous allez l'entendre, le ton est déjà donné entre Louis Boyard, le député LFI, et Stéphanie Rist, la rapporteure Renaissance.
Au vu de tout ce que vous êtes en train de faire depuis 5, 10 ans et tout ce qui n'arrête pas de se décaler, se pose la question de moi, du haut de mes 22 ans, à quel âge est-ce que je vais pouvoir partir? Non mais, mes chers collègues, ce que je demande... Ben non mais pardon, vous êtes sérieuse dans ce que vous êtes en train de faire là? Non mais vous prenez pour qui?
On ouvre les chakras et on se tait.
Donc, est-ce que plus tard, on se retrouvera encore à avoir un décalage dans la mesure où tous les 5-10 ans, on se retrouve à avoir des réformes?
S'il vous plaît,
juste redire...
Madame la rapporteure va répondre à Monsieur Boyard.
Monsieur Boyard, que l'objectif même de cette réforme est de revenir à l'équilibre d'ici 2030 et de diminuer les dettes liées si on ne faisait pas cette réforme.
Voilà des propos recueillis pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire.
Et à la veille de cette deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, une certitude déjà, les perturbations s'annoncent massives.
Au-delà de la longueur des cortèges, c'était un révélateur là aussi de l'ampleur de la détermination des opposants au texte. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Dans le secteur des transports, on ne sera pas loin de la paralysie.
Oui, très peu de trains en région, 2 TER sur 10 selon les prévisions de la SNCF qui seront affinées en fin d'après-midi. Quasiment aucun train grande ligne intercité. Pour les TGV, 1 sur 3 en moyenne. C'est l'axe Atlantique qui est le plus touché, avec seulement un TGV sur 4 en circulation demain. Le préavis démarre dès ce soir, quand même, à la SNCF, à partir de 19h. En Ile-de-France, peu de RER A et B, très peu de RER C, D et E, 1 sur 10. Dans le métro parisien, trafic très limité, peu de rames et seulement aux heures de pointe. Des stations seront fermées, on saura lesquelles dans l'après-midi.
Vous venez de nous parler du métro parisien. Est-ce qu'on sait comment ça se passe dans les autres grandes villes?
Les trafics perturbés dans les transports en commun de beaucoup de villes. Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, on ne peut pas citer toutes ces villes. Bordeaux, 16% de grévistes prévus sur le réseau de transport, nous indique Philippe Demaria, le correspondant d'RTL sur place. Ça peut aller jusqu'à pas de trafic du tout, comme à Nice. Et c'est l'appel aussi lancé par les syndicats dans les transports à Montpellier. Les transports scolaires peuvent aussi être perturbés. C'est le cas en Bretagne notamment.
Et dans les airs, Marie?
Grève des contrôleurs aériens. La direction de l'aviation civile a demandé préventivement aux compagnies aériennes de supprimer 20% du trafic à l'aéroport d'Orly. Par conséquent, Air France annule un vol court et moyen courrier sur 10, mais les liaisons long courrier ne seront pas affectées.
Et en dehors des transports, côté service public, là aussi, ça va être compliqué.
Oui, tous les syndicats de la fonction publique appellent à la grève, dans les administrations, aux finances, dans le secteur médico-social, l'administration hospitalière risque de ne pas avoir de cantine, de garderie quand elles sont gérées par les collectivités locales. Puis il y a l'éducation nationale, des classes fermées, parfois des écoles publiques entières fermées en fonction du taux de grévistes. Mais particularité de cette mobilisation contre les retraites, c'est les écoles privées catholiques qui peuvent aussi être touchées par la grève, et ça c'est très rare. soir.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Quant aux manifestations à proprement parler, les services de renseignement attendent 1 million à 1 200 000 personnes dans les rues demain, ce qui équivaudrait à la mobilisation du 19 janvier. 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays pour assurer la sécurité des cortèges, 4 000 rien qu'à Paris. Dans le même temps, on le disait, le texte lui est arrivé en commission des affaires sociales à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui peut encore changer alors que la première ministre Elisabeth Borne a déjà fait savoir que les 64 ans, ce n'était plus négociable. On y revient en détail après le journal. Et puis toujours à propos de politique, 3 députés ont été élus hier après des législatives partielles. Opération neutre pour la majorité puisqu'elle perd un siège en Charente mais en remporte un dans la Marne. Le RN lui perd un siège et la NUP en gagne un député.
RTL Midi. La maman de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé le 7 janvier, prendra la parole dans quelques minutes.
Oui, elle tiendra une conférence de presse 3 jours après la décision du procureur de la République de renvoyer devant la justice 4 de ses camarades soupçonnés de l'avoir harcelé. Des adolescents qui étaient comme Lucas, élèves du collège Louis-Armand de Golbey dans les Vosges. Dimitri Ramelot, vous êtes devant l'établissement où aujourd'hui on salue ces suites judiciaires.
Oui, à l'heure de la sortie, devant la grille où est accroché un bouquet de fleurs blanches, les parents d'élèves comme Magali attendent la prise de parole de la maman de Lucas, dont ils saluent le courage.
On se dit, ça peut être le nôtre, ça peut être n'importe qui, et à 13 ans, il faut avoir la force de le faire quand même. Vous voyez, je suis ébouillante.
Marche blanche, dimanche, vous irez ?
Avec mon fils aussi. C'est un dernier hommage à lui rendre. C'est un gamin de l'âge du mien, en fait, donc c'est normal, je pense. Pour soutenir les parents aussi, parce que ça doit être très très dur pour eux.
Et l'annonce de poursuite contre les 4 collégiens soupçonnés d'avoir harcelé l'adolescent de 13 ans est accueillie presque avec soulagement par cette autre maman dont la fille est en 5e, la même classe que Lucas.
Je trouve ça inadmissible que les enfants, ce qu'ils ont fait là, à l'heure actuelle, au gamin là, pour moi c'est inadmissible.
C'est normal qu'ils soient poursuivis les 4 ?
Ne serait-ce qu'ils vont passer au tribunal, oui, qu'ils comprennent les choses de ce qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils auront droit à une peine, je sais pas. Mais si, il doit y en avoir une, pourquoi pas.
Et elle se rendra elle aussi à la marche blanche dimanche comme une très grande majorité d'habitants rencontrés ce matin.
Dimitri Ramelot à Golbey dans les Vosges pour RTL.
À l'international, Kiev accuse le CIO, le Comité international olympique, d'être un promoteur de la guerre.
La présidence ukrainienne reproche en effet au CIO d'examiner la possibilité d'autoriser la participation d'athlètes russes sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une plateforme pour promouvoir le génocide des Ukrainiens, selon un conseiller de la présidence ukrainienne. La guerre en Ukraine, justement, qui a redistribué les cartes en Russie, où les oligarques subissent les sanctions international sur le plan économique notamment. Et quand l'étau se resserre, Brice Dugénis, c'est un peu le sauf qui peut et tous les moyens sont bons.
Oui, même si publiquement, les oligarques restent soudés autour de Vladimir Poutine. Discrètement, les élites russes cherchent à sauver une partie de leur fortune à l'étranger sans vraiment se soucier de l'avenir de la Russie. Dubaï a remplacé les villas de luxe de la Côte d'Azur et de la côte italienne, qui ne sont désormais plus accessibles. Et en Russie, les oligarques tentent de protéger une situation de plus en plus instable, parfois même en s'entourant d'hommes armés. Françoise Thom est autrice de Comprendre le poutinisme.
Il y a de moins en moins de revenus pétroliers, de moins en moins de revenus gaziers et Poutine, du fait même qu'il ne peut plus arroser d'argent comme il le faisait avant, ça fragilise la fameuse verticale du pouvoir et on le voit d'ailleurs, on voit un effritement de l'appareil d'État avec la multiplication des structures privées, des armées privées. Il y a des symptômes de crise de l'État russe qui ne trompent pas.
Un effritement gage de déstabilisation de l'État russe pour les mois et les années à venir. Mais pour l'instant, Vladimir Poutine garde le contrôle des élites russes.
Brice Dugénis du service international d'RTL. Et pour en savoir plus sur ce que deviennent les oligarques russes, ne ratez pas notre podcast Focus, les grandes enquêtes d'RTL. C'est à retrouver sur notre site internet et sur toutes les plateformes.
Nous revenons en France après 3 mois et demi d'enquête à la Fédération française de football. La mission d'audit remet son pré-rapport.
De première conclusion, oui, auquel Noël Le Graët, le président mis en retrait, et Florence Ardouin, la directrice générale mise à pied, vont pouvoir répondre, Philippe Sanfourche.
Oui, alors rien n'est encore rendu public, mais eux vont avoir accès à la partie les concernant. Noël Le Graët va donc prendre connaissance de ce qui lui est précisément reproché, les accusations qui ont conduit la justice à ouvrir une enquête pour soupçon de harcèlement moral et sexuel. Même procédé concernant Florence Ardouin et son management supposé brutal. Chacun va maintenant organiser sa défense, comme explique Philippe Diallo, le président de la Fédération par intérim.
Le président Le Graët ou la directrice générale auront l'occasion de présenter leurs observations sur ces premières conclusions. Et ce n'est qu'à l'issue de cette période contradictoire, on va dire vers la mi-février, que les conclusions définitives seront rendues publiques.
Pas de révolution de palais à attendre avant 15 jours, donc on sait que Noël Le Graët n'a pour l'heure aucune intention de démissionner, ni lui, ni son comité exécutif. On va voir si le contenu de l'enquête est suffisamment accablant pour le contraindre à changer d'avis.
Philippe Sonfourche.
Et on répète qu'on ne sait rien de ce qu'il y a dans cet audit.
Seuls eux le savent à l'heure qu'il est.
C'est un trésor national et il reste en France. Le tableau « La partie de bateau » de Gustave Caillebotte intègre le musée d'Orsay aujourd'hui.
Ce chef-d'œuvre de l'impressionnisme qui appartenait jusque-là aux héritiers du peintre rejoint effectivement les collections du musée grâce au mécénat du groupe LVMH, Monique Younès.
Oui, il fallait trouver une entreprise capable de débourser 43 millions d'euros pour permettre au musée d'Orsay d'acheter ce canotier peint en 1878. C'est un grand format de 117 cm par 90. L'homme est en gros plan, très cinématographique, en train de ramer dans sa barque sur la rivière de Lierre. Le tableau a été classé trésor national en janvier 2020 et le musée d'Orsay avait 30 mois pour trouver l'argent. Alors dans ces cas-là, la première personne qu'on appelle, c'est Jean-Paul Clavery. Il est inconnu. Comment ?
Non, j'ai dit, vous me regardez, c'est pas moi qu'on appelle.
C'est pas vous, Jean-Paul Clavery, non, c'est le conseiller spécial de Bernard Arnault. Alors vous imaginez qu'il ne dit pas oui tout de suite, 43 millions, même pour une entreprise qui gagne 14 milliards, ben, c'est pas rien. Jean-Paul Clavery s'est déplacé pour voir le tableau, tout comme Bernard Arnault d'ailleurs. Et Christophe Leribaud, le président du musée d'Orsay, a su trouver les mots pour les convaincre.
Le tableau est tellement convaincant qu'il avait vraiment conscience que c'était un chef-d'œuvre absolu de l'artiste, qu'il manquait véritablement au musée d'Orsay et qu'il fallait qu'il soit dans les collections nationales. Il va d'ailleurs tourner dans différents musées à travers la France et ce sera vraiment un des points forts de notre collection.
Alors le musée d'Orsay possède seulement une dizaine de toiles de Caillebotte pour 80 Renoir ou 80 Monet. Alors pour voir le canotier de Caillebotte, vous devez grimper à la galerie des impressionnistes. C'est au 5e étage du musée d'Orsay où il est en très bonne compagnie, entouré de ses amis Monet, Manet, Sisley, Renoir et son bal au Moulin de la Galette, autre chef-d'œuvre du musée d'Orsay.
Merci beaucoup Monique Younès. La météo, on vous retrouve Claire Delorme, pluie au nord, soleil au sud cet après-midi.
C'est exact, en effet nous avons une perturbation qui va concerner encore bon nombre de régions, en tout cas donc du nord pour cet après-midi, donc ça sera très nuageux avec localement encore quelques pluies, pluies qui pourraient être sous forme de neige pour la région Grand Est et la Franche-Comté. En revanche, plus on va vers le sud et plus ce sera davantage lumineux, ça concernera surtout le sud-ouest, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, notamment le Occitanie et la Méditerranée qui sera davantage ensoleillée, même si localement, là encore, nous pouvons avoir quelques brouillards récalcitrants résistants vers la vallée de la Garonne. Des températures en revanche qui se radoucissent, particulièrement vers la façade atlantique de la Bretagne mais aussi vers les Hauts-de-France, entre 8 à 11 degrés. Des températures que l'on retrouvera également en Méditerranée et partout ailleurs, là aussi ça se radoucit, mais il faudra compter entre 5 et 8 degrés.
Merci beaucoup Claire Delorme.
La réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale. Je vous ai écouté ce matin, Martial Youx, je me demande comment on va sortir de cela, puisque chacun va rester bloqué sur ses positions, si j'ai bien compris. Donc il y a bien un moment où il va falloir que l'un cède, au moins quelque chose.
D'habitude c'est comme ça dans les conflits sociaux, oui. Il faut qu'il y en ait un qui cède.
A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1 200 000. Les services de renseignement s'attendent à voir du monde demain dans les cortèges. Une journée de mobilisation a priori au moins aussi importante que le 19 janvier dernier. Et cela alors que le texte fait son entrée à l'Assemblée nationale en commission aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut encore changer? On va poser la question à Martial Youx. Bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour.
Bonjour.
Les services économiques et politiques d'RTL réunis. Elisabeth Borne, la première ministre, l'a dit hier, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ce n'est plus négociable. Qu'est-ce qu'il est encore alors, Martial ?
Alors, il y a ce qui y était depuis le début, pour ainsi dire. Vous avez intégré plus de critères de pénibilité. On sait que ça fait partie des demandes de la CFDT depuis de longues années. Donc, c'est une concession qu'on peut imaginer sans trop de difficultés. Il y a aussi mettre plus de sanctions, plus de pression sur les entreprises concernant l'indice sur les seniors pour les obliger à garder ou à embaucher des plus de 55 ans. Et puis, il y a un point qui s'est un peu invité
ces derniers jours, beaucoup plus de façon beaucoup plus prégnante que lors de la dernière mobilisation, c'est la situation des femmes et la prise en compte des congés maternité, parce que c'est une grogne qui est montée petit à petit. Vous savez qu'une femme qui a des enfants peut cumuler 8 trimestres par enfant, et là, avec les études d'impact, on s'est rendu compte que finalement, avec le report de l'âge légal à 64 ans, une partie des femmes qui ont l'ensemble des trimestres demandés seront obligées de travailler plus longtemps.
Mais ça, ils l'ont découvert en même temps qu'ils présentaient cette réforme, ou ils le savaient avant? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'exécutif a découvert.
Oui, parce que vous savez, c'est très compliqué, la réforme des retraites. Ouais, enfin, non, mais si, c'est compliqué. C'est des tas de petits cas particuliers.
Tu l'attends depuis 6 ans, quand même.
Oui, mais c'était pas la même réforme.
Il y a un amateurisme là-dedans, s'ils l'ont découvert. S'ils l'ont découvert.
Non, mais il y a toujours une étude d'impact qui est faite, et c'est vrai que c'est compliqué de s'y retrouver, même avec les plus beaux esprits de France, les plus beaux intellects. Et lorsqu'il y a eu cette étude d'impact, est apparu effectivement quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir avant, c'est-à-dire la situation des femmes.
Le texte, en tout cas, est arrivé en commission des affaires sociales à l'Assemblée ce matin, et ça pour 3 jours. Marie-Bénédicte Allaire, plus de 5000 amendements doivent y être discutés. Le texte, il peut bouger en commission?
Alors, en commission, il peut bouger, oui, mais alors d'abord, il est peu probable que tous les amendements, parce qu'il y en a 7000 au total, hein, et que la commission ne dure que 3 jours, il est peu probable que tous les amendements vont pouvoir être examinés. Ça, les députés en sont bien conscients. Le texte peut bouger un petit peu, mais c'est pas vraiment en commission que ça se joue. En commission, ça va être c'est plutôt un tour de chauffe, hein, voir les uns et les autres se jaugent, commencent à échanger leurs arguments. Bon, ce matin, c'était un petit peu agité, on va dire. C'était un peu ambiance collège dans une classe assez dissipée. Et voilà, certains députés avaient du mal à se faire entendre, et la présidente de la commission devait faire un peu la discipline. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si le texte n'est pas totalement examiné, il va passer dans l'hémicycle le 6 février. Voilà.
64 ans, c'est innégociable des deux côtés?
Disons que c'est une ligne rouge. Pour l'instant, alors vous savez, on est toujours dans un rapport de force. Et là, on est juste avant une journée de mobilisation. Donc le gouvernement durcit ses positions. Ce qui est vrai, et je l'avais expliqué il y a quelques jours déjà à midi.
Et répondez à ma question. Est-ce que c'est innégociable des deux côtés?
À l'instant où on parle, aujourd'hui, 12h49, oui. Parce que si le gouvernement recule... C'est bloqué,
des deux côtés.
Bien sûr, des deux côtés. Parce que vous avez à la CFDT un Laurent Berger qui, malgré sa conviction... est obligé, il y a eu un vote de son congrès qui l'oblige à ne pas accepter les 64 ans. Il ne peut pas. C'est arrivé en 2003, François Chérec a négocié avec Fillon en 2003 des amendements et des aménagements sur la réforme des retraites. Ça s'est suivi par une hémorragie terrible à la CFDT de gens qui ont rendu leur carte et qui sont partis chez FO ou à la CGT. Je ne pense pas que Laurent Berger ait envie de ça aujourd'hui.
Marie-Bénédicte Allaire, la mobilisation de demain, elle peut changer la donne quand même d'une manière ou d'une autre ?
Écoutez, si la mobilisation est très forte, évidemment, ça va redonner du peps à l'opposition de gauche, s'il en était besoin. L'opposition de gauche, elle va être vraiment en appui de la rue. Après, le gouvernement, il sait qu'il doit en passer par là. Il s'attend à ce que la mobilisation soit forte. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Si Elisabeth Borne est sortie hier en disant 64 ans, ça va pas bouger, c'est aussi pour... prendre les devants et dire à la rue, bon, vous pouvez vous mobiliser, mais c'est pas ça qui changera les choses. Donc, sur les lignes rouges, comme disait Martial, notamment celle des 64 ans, je ne pense pas que ce soit la mobilisation de demain qui puisse faire changer les choses.
Merci beaucoup à tous les deux. On suivra évidemment avec attention cette mobilisation RTL avec vous toute la journée de demain, que vous soyez manifestant ou au cœur des perturbations. On vous accompagne évidemment au quotidien.
Martial, vous n'avez rien à faire entre 13h et 13h30. Vous voulez pas dialoguer avec les auditeurs un peu ?
Si vous voulez, je reste là.
Ah, ça c'est gentil. On va parler littérature dans une seconde avec Bernard Lehu. À tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Praud. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, une rencontre avec une romancière discrète, mais qui a su gagner le cœur des lectrices et des lecteurs depuis une dizaine d'années, Agnès Ledig.
Et bonjour Bernard Lehu.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour Céline.
Agnès Le Digue qui publiera mercredi après-demain donc son nouveau roman Un abri de fortune chez Albin Michel. Et elle s'est confiée en avant-première comme souvent à votre micro.
Oh, merci. Alors Agnès Le Digue était sage-femme lorsqu'en 2013 paraît Juste avant le bonheur, un livre inspiré du drame personnel qui l'a frappé, la mort de son fils de 5 ans victime d'une leucémie. Succès immédiat qui ne l'a plus quitté depuis. Agnès Le Digue a l'art, il est vrai, de raconter des histoires marquées du sceau de l'empathie, de la bienveillance, et toujours, et ça c'est important, sans aucune mièvrerie.
Je pense que j'ai besoin de prendre soin de mes personnages, comme j'aime prendre soin des gens dans la vraie vie. C'est pas pour rien que j'ai été sage-femme à une période de ma vie. Et c'est mon verbe, en fait, prendre soin. Je m'en suis rendu compte avec le temps, mais c'est mon verbe de vie, prendre soin. Donc, je le faisais avant, quand j'étais soignante. Je le fais maintenant en prenant soin de mes personnages et à travers mes personnages, j'espère, en prenant soin de mes lecteurs. Mais je pense que tout vient de là, en fait, prendre soin. Je pense aussi, et plus le temps passe, plus j'écris des romans, plus je m'amuse en fait, donc je prends soin de moi.
Bon Bernard, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau roman Un abri de fortune?
Alors, trois grands blessés de la vie, on découvrira pourquoi au fil des pages. La jeune Clémence, Karine, une quadragénaire, et Rémi en liberté conditionnelle sont accueillis dans une ferme des Vosges, tenue par un couple, lui-même rescapé du malheur, qui était d'ailleurs ce couple le héros du livre précédent de Agnès Le Digue.
J'avais envie de faire un lieu d'accueil pour montrer à quel point la nature, le vivant, peuvent reconstruire des humains cabossés. Parce qu'en fait, on est le vivant, on fait partie de ce vivant. Et j'avais envie de les accueillir dans un endroit qui allait leur permettre, à travers le potager, à travers la forêt et les arbres, de pouvoir aller réveiller en eux peut-être un vivant qu'ils avaient un petit peu perdu à travers les épreuves qu'ils avaient traversées et se reconstruire ensemble.
Au récit de la renaissance de ces personnages, Agnès Le Digue ajoute un suspense digne d'un polar, Bernard.
Oui, ici avec la découverte d'un mystérieux tunnel en pleine forêt des Vosges. Agnès Le Digue vit dans les Vosges et cette découverte va entraîner ses héros dans une enquête aux ramifications multiples. Un début d'intrigue que la romancière n'est pas allée chercher loin.
Dans notre petit coin de forêt, on a découvert cette cavité. Donc c'est extrêmement calqué sur la réalité. Forcément, on a eu envie de creuser, voir ce qu'il en était. Alors dans la vraie vie, on n'a rien trouvé de particulier à part une petite source. Mais moi, évidemment, autrice de romans, je me suis dit, mais forcément, on peut y trouver quelque chose. Et donc je suis partie de cette découverte de départ pour créer une intrigue, faire des fouilles, trouver, je vais pas dire quoi pour pas trop dévoiler l'intrigue, mais c'est parti d'un fait réel pour nourrir mon imagination, en fait.
Vous aimez bien jouer aussi avec cet art du suspense?
J'adore ça. À la base, mes lectures principales tournent autour de romans d'intrigue. Fred Vargas, Bernard Minier, etc. Donc je me nourris de ça dans mes lectures et j'ai envie de le faire dans mon écriture aussi. Et puis c'est encore plus intéressant que de raconter une histoire un peu linéaire. Et mon ancien éditeur chez Albin Michel me disait toujours cette phrase de Charles Dickens, fais-les rire, fais-les pleurer, mais surtout fais-les attendre. Donc j'ai essayé de travailler sur l'attente.
On le disait en introduction, Agnès Le Digue est plutôt discrète, on l'a entendu parler de son métier de sage-femme, activité qu'elle n'exerce plus grâce à son succès en tant qu'auteur. Pour autant, Bernard, elle ne consacre pas tout son temps à l'écriture.
Ah oui, c'est étonnant. Femme d'agriculteur, elle vit en toute simplicité dans leur ferme des Vosges, donc, où elle n'hésite pas à donner de sa personne.
Nous démarrons en élevage de chèvres. Pour l'instant, on a 5 chevrettes qui ne sont pas encore en production. Elles sont nées l'année dernière, mais c'est chouette. Enfin, moi, j'adore. Les gens me voient en signature, en salon, mais je promène ma brouette à longueur de temps l'été parce que je travaille dans mon jardin et c'est un bonheur fou quoi. On a nos œufs, on a nos légumes.
Et la conduite du tracteur alors?
Je fais des progrès en tracteur, c'est pas encore ça. Après j'ai un mari qui est né dans une ferme, donc lui je pense qu'il a appris à conduire le tracteur avant de conduire une voiture, donc il le maîtrise parfaitement. Déjà je sais manipuler une tronçonneuse, ça vient aussi. Enfin, c'est un jeu aussi, c'est comme l'écriture en fait, c'est un jeu. Je suis heureuse.
Et voilà, charmante de simplicité, Agnès Ledig, femme et écrivaine heureuse, publiera mercredi son nouveau roman, Un abri de fortune, c'est aux éditions Albin Michel.
Et des écrivains qui ont du succès et qui savent manier la tronçonneuse, ils ne sont pas si
beaucoup.
Nombreux, Bernard.
Voilà.
On le souligne.
Et comme quoi, il y a une vie littéraire au-delà de Saint-Germain-des-Prés. Hein.
Bien sûr, c'est vrai. Alors, il y a quelques chèvres à Saint-Germain-des-Prés de temps en temps, mais
vous
bon.
Vous avez des noms,
c'est pas Pascal. La il est 12h58. Nous allons marquer effectivement une pause. Martial You sera là. Ça sera l'événement quasiment. Des auditeurs ont la parole. Vous pourrez lui poser des questions. Sur les retraites, il n'y a pas de retraite chez les romanciers, bien évidemment.
Ben, on s'arrête quand on
veut. Faudrait savoir à quel âge on est le plus créatif. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Voilà une bonne question pour l'écrivain, pour les écrivains. 12h58, à tout de suite.
RTL Midi.